Chapitre 8. André descendit le matin dans la rue, les jambes molles, la tête vide, les yeux là. Il arpenta rapidement la rue de la Bruyère, s'éloignant en toute hâte, sans savoir pourquoi, du logis de cette femme. Il ralentit son pas dès qu'il eut tourné au coin de la rue. Là, il s'aperçut dans la glace d'un magasin, pâle et les joues tirées. Il brossa son chapeau avec sa manche d'habit, refit son nœud de cravate et rougit à l'idée que tout le monde pouvait deviner, dans ses bottines déchirées, dans son linge fripé, dans sa mine blême, l'éreintement d'une nuit blanche. Les quartiers paresseux qu'il traversait s'éveillaient à peine. Il ne rencontrait sur sa route que des sergents de ville, des porteurs de journaux et des laitières. Ça et là, des gens rentraient comme lui, exténués, les paupières battant du lilas dans les faces hâves. Il se regardait et passait, ruminant d'identiques réflexions sans doute. Parfois, des gens plus dignes étalaient dans leurs costumes, dans leur habit noir et leur cravate blanche visible sous le pardessus au collet relevé, l'excuse mondaine de leur épuisement. André avait la bouche sans salive, mauvaise. Il lui semblait avoir sucé du cuivre. Il essaya de fumer une cigarette pour combattre cet horrible goût, mais il s'empâta davantage la langue et il déchira ses lèvres sur lesquelles le papier collait. Il quittait à ce moment la rue Blanche, si triste à toutes les heures. Il s'empressait de gagner les abords de la gare Saint-Lazare pour atteindre un café ouvert et se faire apprêter quelque chose de chaud. Et à mesure qu'il avançait, au sommeil aviné à l'esquintement de filles du quartier Bréda, succédait une activité croissante, un va-et-vient fébrile, un affairement non interrompu de commerce aux aguets des arrivées et des départs des trains, toujours en sursaut, spéculant sur la presse des voyageurs, escomptant les roulements de bagages et les sifflets de machines. Il pénétra sous les arcades du chemin de fer dans un café. Des garçons époussetaient à cette heure les divans avec des serviettes, lançaient des coups de balai sur les pieds des tables, tandis que d'autres, corrects déjà, déchiraient les bandes de journaux et préparaient les verres. André commanda un Mazagran, prit une revue emmanchée dans un cartonnage de toile noire, mais les lettres d'imprimerie papillotaient devant ses yeux et couraient à la débandade. Une lassitude extrême le prit sur sa banquette. Il tenta de secouer la torpeur qui l'accablait depuis qu'il ne marchait plus, se força à dévisager un couple de voyageurs occupés à reboucler la courroie d'un tartan à damier vert et moins noir servant d'enveloppe à un paquet de manteaux et de châles, à des parapluies, à des cannes dont les pommes et les coups sortaient. Si anéanti qu'il fût, il sourit, observant que le garçon rapportait comme d'habitude la monnaie à celui des deux voyageurs qui ne lui avaient pas remis la pièce. Il commençait cependant à voir plus clair. Des éclats de soleil qui perçaient les carreaux de la devanture, allumant le dessous rouge des lettres en cuivre collées sur les vitres et vues à l'envers de l'intérieur du café, le réjouirent. Il s'amusa à déchiffrer « Déjeuner à la fourchette » qui décrivait une courbe sur le verre, puis, ragaillardi par une gorgée de tisane noire, il se félicita de l'aubaine de sa nuit. Il avait eu vraiment de la veine. Au lieu de l'insoutenable mendiante que son expérience des amours parisiennes lui faisait craindre, il était tombé sur une bonne fille, accorte, peu chipotière, se confiant en la loyauté de ses pratiques. Il avait, à un autre point de vue, été également charmé. À la place de la boutiquière voulant épargner des avaries à sa marchandise, ne laissant toucher qu'avec mauvaise grâce à ses moindres jouets, il avait découvert une négociante offrant d'elle-même l'essai, heureuse de procurer aux acheteurs le plaisir qu'elle goûtait à vendre. l'ennui de coucher dans une chambre qui n'est la sienne, la difficulté de ne pas regretter le seul bonheur qui soit peut-être complet sur la terre, être au chaud dans un lit solitaire, chez soi, libre d'y fumer, libre d'y lire, sans gêne d'aucune sorte, sans obligation d'écouter et de répondre, ne s'était pas montré. Il n'avait eu, en somme, aucun leurre. Pas Bégueule et suffisamment polissonne, d'une invisible mauvaise foi dans ses expansions, d'une jovialité recréante dans ses caresses, cette fille enchanta André. Il s'était réveillé le matin et l'embarras de deux gens qui, se connaissant à peine, se retrouvent les yeux bouffis, la laine gâtée, les jambes entortillées les unes dans les autres, avait été rompu par Blanche, qui lassa gentiment ses bras autour du corps d'André. Ils s'étaient embrassés, puis le jeune homme avait sauté du lit, la priant de ne pas se déranger, comme elle le proposait, pour lui indiquer la place des outils de toilette. Une fois dans le petit cabinet où trônait sous une planche pleine de bottines, dans un fouillis de camisoles et de jupes, un lavabo plaqué de marbre, André, la figure dans la cuvette, faisant le dauphin avec son nez, avait continué d'échanger des mamours avec Blanche, qui lui criait de son lit. « Tu sais, la serviette à figure, c'est la première à gauche sur le séchoir. Près du seau hygiénique, n'est-ce pas ? Oui, mon chéri, tu as le savon ? Oui, oui, oh, ne t'inquiète pas. » Et dans un dégoulinis d'eau, dans un bruit de lavage, les gracieusetés avaient couru sans s'arrêter d'une pièce à l'autre. Une fois vêtu et rentré dans la chambre, ils s'étaient quittés, très bons amis. Elle n'avait réclamé aucun argent, et lui, délicatement, avait déposé une pièce de 20 francs, pas trop en évidence, sur la tablette de la cheminée. Blanche dressa à ce moment l'oreille et ouvrit l'œil, mais elle se détourna aussitôt, se replongeant le nez sous ses couvertures. André souriait avec jubilation, se répétant qu'il tenait enfin le remède aux crises juponnières futures, le cataplasme du cœur vainement espéré depuis des mois. Cyprien a beau dire, pensait-il, que toutes les femmes sont bâties sur le même modèle, que la différence des castes s'obtient plus ou moins de richesse dans le linge et dans les bas, et par plus ou moins d'hypocrisie dans la parole et dans le geste, tout ça, ce sont des blagues. Puis enfin, c'est peut-être drôle de mépriser les femmes, mais comme on ne peut pas s'en priver. Une seule chose l'interloquait, savoir au juste dans quelle classe de la galanterie il fallait ranger Blanche. Elle n'appartenait évidemment pas à cette catégorie de braconnières dont les yeux pipent au hasard les passants sur l'asphalte, puisqu'elle ne réclamait pas son dû d'avance. Le même motif éloignait l'idée d'un mâle en embuscade derrière des rideaux ou dans une cuisine, attendant l'argent soutiré pour l'aller boire. Puis elle possédait bonnes logements confortables, des meubles de faux boules, un grand lit en long dans la chambre, un lit haut du chevet et bas du pied, sans dossier de métal ou de bois, capitonné de cretonne pareil à celle des murs, avec de vastes oreillers à dentelles et à chiffres. Il y avait dans le salon un guéridon et un piano en palissandre, et dans la salle à manger, sous verre, dans un sérieux buffet de noyer à baguettes noires, tout un service de verreries, de baccarat et de faïences anglaises avec des fleurs bleues cuites dans la pâte blanche. D'un autre côté, il était peu probable qu'elle fût entretenue par un seul homme et eût simplement, pour les besoins de son cœur, un amant qui lui offrait de temps en temps un bijou ou une robe. Car André ne l'aurait probablement pas enlevé sans coup férir le premier soir. D'ailleurs, ce logement ne dénotait pas la présence d'un maître, d'un monsieur qui, seul dans le foyer, se croit presque chez lui et possède dans la table de nuit, sur le rayon en dessous du pot, une paire d'escarpins ou de pantoufles. André s'arrêta enfin à cette supposition que Blanche appartenait à une arme spéciale, qu'elle faisait probablement partie de ce régiment de filles dont la tâche lucrative et morale consiste à dérider les gens mariés et à les renvoyer plus assouplis dans leur famille. À certains indices, il croyait bien avoir reconnu le caractère distinctif de ce genre de femme. Un bon enfant, un gracieux libertin, destiné à ressortir sur l'aigre et fastidieuse popote du ménage, et avec cela une certaine tenue, un simili comme il faut, utile pour ne pas rendre trop brusque la transition entre la femme légitime et la baladeuse, le rêve des hommes mariés, sans qu'ils aient peut-être conscience autant de vices et plus de bon ton que chez les maîtresses connues dans leur jeunesse avant le mariage. « Quel était cela ?» murmura-t-il en appelant le garçon. Il paya, tout réjoui, son Mazagran, et allumant une cigarette, il s'achemina vers son domicile. À mesure qu'il approchait, sa peur du « qu'en dira-t-on » grandissait. Il n'avait jamais découché depuis son entrée dans ce logis. Cette phrase qu'allait sauter aux yeux de son concierge, activer les cancans de la loge, et puis Mélanie, qui devait à ce moment sans doute regarder tout inquiète le lit, n'allait-elle pas croire à un accident ? Elle était capable, dans son trouble, de se concerter avec la portière et de noyer toutes deux leurs vieilles piques d'intarissable bavardage sur son compte. Il s'arrêta sur le trottoir, hésitant, presque honteux, ne s'estimant pas plus assez jeune pour ses équipés. Il se résolut enfin à ne pas rentrer tout de suite. « Cela vaudra mieux, pensa-t-il. J'aurai plus facilement l'apparence d'un monsieur qui s'est levé de bonne heure et rendu au bain. » Puis il eut honte de sa couartise, chercha des prétextes qui justifiassent à ses propres yeux la nécessité d'une promenade. Il pensa aller voir Cyprien, mais il se dit que cette course le retarderait trop, que Mélanie, encore indécise peut-être, commettrait à coup sûr une esclandre dans la maison. Et le nez en l'air, il flanocha, les mains dans les poches, tâchant de s'intéresser aux moindres choses. Alors, comme pour justifier les piètres motifs qu'il invoquait, un phénomène singulier se produisit. Le brouillard de sa cervelle se dissipa peu à peu. Il démarra de ses pensées sur Blanche et sur sa bonne, et subitement il eut une curieuse éclaircie d'organes. Ses nerfs vibrèrent d'une façon aiguë, et mille détails qu'il n'avait jamais observés, bien qu'il les vît tous les jours, le frappèrent. Il découvrit son quartier d'un coup. Regardant du haut en bas les rues, coordonnant soudain des réflexions qui lui étaient peut-être déjà venues sans suite, il s'aperçut que son quartier était en majorité habité par d'anciens notaires, par des restes de la noblesse orléaniste, par d'anciens dignitaires du Second Empire, par des avocats à la cour d'appel, par des auditeurs au Conseil d'État, par des conseillers référendaires à la cour des comptes. De là, se dit-il, cet aspect mécontent et rechigné de gens perchés sur des échasses, méditant sur de solennels farivoles, passant graves et roides avec des mines pincées de vieux juges. Les pierres elles-mêmes lui parurent s'ennuyer, imprégnées qu'elles étaient de tout le pédantisme que ces gens dégagent. La teinte générale, le milieu, le voici donc, pensa-t-il, traînant au hasard à travers des rues de Roquépine, d'Aguesseau, de la ville l'Évêque, de Suresnes, des Saussais et d'Astorgue. Voyons, mettons un peu d'ordre dans nos idées. Ce quartier est complexe, mais je le démêle. Deux éléments dissemblables, et découlant l'un de l'autre, pourtant le marque d'une cachet personnelle. Sur la triste et banale opulence de la toile du fond se détache toute la joviale crapule des domestiques. « Ah, c'est là la note vraie, » murmura-t-il, enchanté de ses observations. La note exacte, brochant sur le thème empesé et gris, avec ses voyantes fioritures de cuite et de gaudriole. La vie de ces trottoirs, que les gens riches parcourent à peine et donnés tout entière par leur valetaille, elle seule emplit la chaussée, anime les tavernes qu'on a créées exprès pour elle, des boutiques anglaises avec du fromage de Stilton, du céleri en branche, des bouteilles de pale ale et de stout. En dehors de ces tavernes, la seule industrie qui puisse tenir dans ce quartier, c'est celle des carrossiers et des harnacheurs. Citons pour mémoire, continua-t-il en comptant sur ses doigts, citons comme ajoutant encore à la note de sécheresse et d'ennui, au parfum dominant d'écurie et de crottin, un manège, un grenetier, un maréchal ferrant, un vétérinaire, un nourrisseur en boutique d'ânesse et de vache, deux ou trois marchands dans la toilette pour les femmes de chambre, chaussetier pour bottes de cheval et de livrée, un épicier qui vend des conserves et des sauces de Londres, et enfin, complétant cet amalgame disparate et forcé, pourtant, parachevant le tout, fonçant la teinte triste sans pouvoir éteindre cependant la carnaillerie gaie des libraires protestantes, des sociétés de propagande luthérienne, des agences bibliques et enfin trois temples de la religion réformée, dont un méthodiste et une English Church, assombrit ce décor et lui ajoute en plus une rigidité puritaine, une froideur anglaise. « Mais c'est cela même, résuma-t-il. Oui, c'est cela. Il n'y a rien de tel que d'habiter constamment dans une rue pour ne la pas connaître. Elle vous rend à la longue presbyte, car enfin il n'y a pas à dire, poursuivit-il, poussant son raisonnement sur le quartier jusqu'au bout. Ce quartier-ci est absolument original, absolument unique, puisqu'il diffère de celui qui lui ressemble de plus, le Beaufour Saint-Germain. Comme lui, il possède des chapelles évangéliques, et il a des grands seigneurs et des laquais. Oui, mais le noble faubourg ne sont pas ainsi le clergyman et le cocher. Les palefreniers ne sont pas les mêmes, voilà tout. Ceux des rues de Grenelle et de Varennes fleurent leur terroir, ils embaument Belleville et le Grand-Duché de Luxembourg. Mais ceux du quartier d'Anjou-Saint-Honoré exhalent l'odeur de la Tamise. De la différence capitale de type, de boutique, de rue. Pas de taverne aux carreaux à plis, mais de bons marchands de vin aux barreaux rouges. Pas d'old gin et de whisky, mais du Regingla et du 3-6. Il y aurait un petit volume à écrire sur chacun des arrondissements de Paris, à ce point de vue. Un guide pour les raffinés, les artistes, conclut André. Oh, il faudra que j'en parle à Cyprien. Mais diable, 9 heures, se dit-il, écoutant une horloge frapper un à un ses coups. Il est temps de rentrer. Et alors, sans plus lanterner devant les boutiques qu'il n'examinait même pas, tout entier qu'il était à ses méditations, il s'achemina vers son logis. Il se donna une contenance dégagée, franchit la cour en faisant sonner ses bottes, essuya le regard étonné du concierge appuyé sur son balai, grimpa, trouva Mélanie en train de secouer les tapis sur la terrasse. Elle se retourna au bruit de la clé dans la serrure, dévisagea éloquemment son maître, puis peu à peu son œil de chouette remua et ses lèvres s'entr'ouvrirent. « L'on n'a pas apporté un paquet pour moi, » jeta André, qui voulut étouffer les questions qui allaient poindre. Elle répondit non, les yeux fichés, grands ouverts, sur lui. Puis sa ténacité auvergnate dompta sa crainte de déplaire, et elle dit, en pliant le paletot cassé sur le dos d'un fauteuil, « Monsieur a l'air fatigué. Faut-il que je défasse la couverture ? » un nom sec qui fut lancé du cabinet où André se lavait la bouche la désarçonna. Elle rengaina sa curiosité, remettant à un moment plus propice l'occasion de la satisfaire. Lorsqu'elle servit le déjeuner, André se plongea le nez dans un livre. Elle apporta, silencieuse, les plats, enragée d'être tenue à distance, considérant comme un affront personnel le mutisme de son maître. Elle voulut lui desserrer quand même les dents, et lorsqu'elle apporta le café, elle demanda si monsieur avait le temps de compter. Il l'aurait volontiers envoyé à tous les diables. Il leva cependant les yeux de son volume, la vit droite devant lui, tenant à la main un cahier de classe à couverture marbrée de violet et de noir, gonflé au milieu par un crayon blanc posé en travers, un de ses crayons à un sou, taillé avec un couteau de table et dont la mine casse dès qu'on l'appuie et ne manque même pas lorsqu'on la mouille. Il tendit la main, prit le cahier, et maugréant, il additionna laborieusement les chiffres. « Je crois que cette note-ci n'est pas marquée, » interrompit la bonne, en lui mettant sous le nez une facture de viande. Il grommela, perdant le fil de ses chiffres. Il dut les laisser feuilleter les pages, parcourir les articles déjà inscrits, chercher dans les mots bizarrement orthographiés qui zigzaguaient les uns sous les autres si le bœuf figurait parmi les dépenses. Ah, il y était. « Mais certainement qu'il est marqué !» cria-t-il furieux. « Ah bien !» reprit Mélanie, très calme, époussetant une pluche nichée sur son caraco. « Je pensais que mon mari l'avait oublié. » Il ne répondit pas, recommença ses additions, opéra la soustraction de la somme reçue et de la somme dépensée. « Il doit vous rester 3 francs 15 centimes, dit-il. « Monsieur ne se trompe pas, » clama Mélanie. « Voyons, j'ai pris de l'argent chez moi. » Et tirant une longue bourse grasse, elle toucha à chacune des pièces et à chacun des sous qu'elle contenait et regarda, l'œil perdu, les meubles. « Il me manquerait 3 sous, » murmura-t-elle. « Enfin, monsieur est sûr de ne pas se tromper ?» Pour la troisième fois, il recommença accablé ses additions, buvant de temps à autre une gorgée de son café qui devenait froid. Il ne retrouva plus le même compte, s'emporta, épela encore quelques chiffres, les prenant cette fois par le bas des pages. « C'est 3 francs 20 centimes qui doivent vous rester, » dit-il. Mélanie poussa des cris de merluche. « Ce serait donc 4 sous qui lui manqueraient. Oh, alors ce n'était pas possible. »« Que diable, les comptes sont là !» gronda André, qui tapa rageusement le crayon sur le carnet, grêlant le papier de coups de pointe. « Tenez !» Voilà votre livre, votre mari vérifiera, si bon lui semble. Moi, j'en ai assez pour aujourd'hui. Et il ficha sa serviette sur la table et disparut dans son petit salon dont il ferma violemment la porte. La journée fut mauvaise. André s'avouait que son humeur massacrante était niaise. Puis le moment de la digestion était venu et une terrible lourdeur pesant sur la machine brisé de fatigue, l'assoupissait dans son fauteuil. Il avait des frissons dans le dos et des chaleurs aux tempes et dans les paumes. Au goût de cuivre qu'il avait en bouche, avait succédé à un goût plus atroce encore, celui de l'allumette qui s'éteint, celui du sulfite de soude. Il but pour le chasser un grand verre d'eau qui le glaça, et, mal à l'aise, grelottant, il marcha de long en large pour se réveiller, regardant son lit, ne se couchant pas par honte de donner ainsi raison à sa bonne. Les autres fois qu'il revint de chez Blanche, il prit mieux les choses. Il s'aguerrit aux mines effarées ou grognardes de la maison et il laissa Mélanie parler tant qu'elle voulut. « Ah, bien, disait-elle, puisque la dame de monsieur est toujours malade, il faut bien que monsieur en fréquente une autre. » Et très éboustillée par l'idée que son maître, qu'elle supposait difficile, ne devait rechercher que des femmes huppées, elle s'efforçait de lui tirer des renseignements et réunissant le soir au lit chez elle les bribes qu'elle était parvenue à recueillir, elle les narrait longuement à son mari, qui tordait tout souriant sa barbiche, pensant aux filles plus ou moins jolies qu'il avait eu l'aubaine d'arrêter dans ses fonctions de sergent de ville. André fut sobre de renseignements lorsque Cyprien le consulta sur les incidents de ses nuits. Il se borna à répondre aux insinuations malveillantes du peintre, décrivant, comme s'il les avait tâtées, les appâts inconsistants de cette fille, qu'il était dans l'erreur et que Blanche était à peine flétrie. « Eh bien alors, tu as volé, » riposta Cyprien, « car enfin tu achetais le sachant de la marchandise tournée et l'entend fourni qui ne l'est pas. À ta place, je réclamerai. » André se résolut à rompre la conversation toutes les fois que Cyprien la portait sur Blanche. Il avait peur, au fond, de voir démolir par le peintre les semblants d'attrait de cette femme. Il la visitait maintenant, à heure fixe, pour être certain de la rencontrer seule, et il jubilait lorsque, sonnant à la porte, il entendait claquer les talons de ses mules et qu'il la voyait, vêtue de linge, frais, sourire dans l'ombre du vestibule. L'accueil était toujours le même, et féminin et puéril, un baiser sur la moustache, la tête prise entre les deux mains, et doucement dodinée, puis tous deux passaient, se tenant par la taille, dans la chambre à coucher, et là, elle lui enlevait prestement son pardessus et son chapeau, lui offrait de se rafraîchir, et sautait dès qu'il était assis sur ses genoux, lui demandant s'il avait été bien sage, le traitant de brigand par amitié, lui répétant « Bien sûr, tu n'as pas soif. Tu sais, il faut pas te gêner, il y a de l'eau de vie et du vin ici. » Il l'interrogea diverses reprises sur la vie qu'elle menait. Elle lui raconta des banalités et mentit sans aplomb. Elle finit un jour par parler d'un monsieur très comme il faut, dont elle fit longuement l'éloge. André lui reprocha intérieurement ce manque de tact. Il était pourtant cause. Il se décida à ne plus la questionner, mais malgré lui, il aborda plusieurs fois ce thème. Alors Blanche se coupa dans ses réponses et lui s'affermit dans cette idée qu'elle recevait chaque après-midi des gens retenus le soir dans leur foyer, et il était ennuyé qu'elle pût avoir toute une série d'hommes. Il ressentait un certain dépit, trouvant naturel qu'elle eût un amant sérieux, mais deux, trois, quatre, non pas. Elle lui parut trop fille. Parfois, il se tâtait et demeurait penaud, se demandant avec tristesse à quoi avaient abouti les dures leçons de ses vieilles amours. Il était aussi niais que jadis. Il avait, par une chance exceptionnelle, découvert la femme longtemps convoitée, et au lieu de rester dans une intelligente incertitude, il allait, mu par un sentiment bête d'amour-propre ou de jalousie, il ne savait quoi, s'immiscer dans ses affaires, s'exposer à d'inquiétantes vérités ou à de grossiers mensonges. Il n'aimait pas Blanche, cependant, et il avait peur, en examinant de trop près ce malaise de cœur, d'arriver à ce piètre résultat, la crainte de n'être point le préféré. À deux amants, il pouvait le croire, étant celui des deux qui n'entendait pas, mais à trois, quatre, cette enfantine illusion partait. Il restait préoccupé, analysant la sottise de ses pensées auprès d'elle. Et parfois, Blanche l'examinait, contrainte, songeant qu'il avait peut-être des chagrins. Et pour détendre ses ennuis, elle se mettait alors au piano et tapotait difficilement des valses. « Je fais des progrès, n'est-ce pas ?» disait-elle. Il répondait oui par politesse. « Tiens, je prends 3 leçons par semaine. Vrai, ce serait malheureux si en m'appliquant je n'avançais pas. » André inclinait la tête. « Du reste, affirmait-elle, ma maîtresse est très capable. On profite avec elle. Oh, ce n'est pas comme ma professeure de français. Elle a cherché un jour un mot dans le dictionnaire, crois-tu ? Tiens, pardi, j'en ferais bien autant. Aussi, tu comprends, je l'ai remerciée. » Les soirées se succédèrent chez Blanche, plus morne chaque fois. André commençait à la juger un peu panade, malgré ses ardeurs brutales et ses allures bataillantes, au lit. Puis le découcher s'altérait pour lui. 2 fois sur 3, il revenait malade, la tête en feu, le cœur soulevé, et il devait s'étaler sur son lit, se coller de l'opium sur les tempes pour amortir ses douleurs et tâcher de dormir. Alors parurent les inconvénients des nuits passées au dehors. L'ennui du réveil dans une chambre close, puant le renfermé le musc. L'impossibilité d'effectuer sa toilette dans un cabinet plein de hardes qu'on éclabousse. La nécessité d'aller remplir le bro que les dépenses de la nuit ont presque vidé. Le manque de brosses à tête, de brosses à dents et de chaussons. Le dégoût de soulever un peigne et hérisser le cheveu. Et de déterrer, près des vieux philocomes, enfouis dans un tas de linge, la serviette à figure, graissée par le Colt Crime, le révoltaire. Il se promit de ne plus découcher, il adopta un autre système. Il alla dîner chez Blanche et retourna chez lui vers les 11 heures. Ce procédé lui sembla tout d'abord satisfaisant, puis il le jugea coûteux, car il laissait 10 francs en sus de son louis pour payer le repas. Ses moyens ne pouvant supporter de telles dépenses, il espaça ses visites. Un certain froid en résulta. Les légers fils qu'il attachait à Blanche se déliaient de plus en plus. Il s'aperçut qu'elle demeurait loin et régulièrement il la négligea. Elle, de son côté, le comprit au nombre de ses clients incertains, ne se gêna plus et ne fut pas chez elle plusieurs fois lorsqu'il y vint. Ses absences l'achevèrent. Ces soirs-là, il avait congédié sa bonne et il descendait, désorbité de chez cette fille, rôdait dans la rue, obligé de tuer 1 heure en se promenant avant que d'aller s'abattre dans le coin d'un restaurant. La tristesse de ses repas le dégoûta plus encore que l'imprévu qui manquait chez elle. Comme toujours, Mélanie combla la mesure, s'étonnant que monsieur le découchât et ne dîna pas en ville. « Allons, disait-elle amicalement, je vois que monsieur aime le changement et par fanfaronnade. » Par désir de montrer une force de caractère qu'il n'avait point, il répondait négligemment, « Ma foi, oui, il y avait trop longtemps que je la connaissais, je l'ai lâchée. » Mélanie, qui craignait tout autant l'arrivée d'une maîtresse que la rentrée de la femme légitime dans un ménage qu'elle administrait au mieux de ses intérêts, s'étendit ce jour-là longuement sur les vices de ces créatures, comme elle les appelait, et elle horripila tellement son maître par les comptes à dormir debout qu'elle lui débita, sur des cocottes d'officiers qui demeuraient dans sa rue au Gros Caillou, qu'André perdit toute mesure et la pria d'aller surveiller le pot-au-feu dans sa cuisine. Ne pouvant se rendre compte qu'elle était douée de façon à exaspérer les plus patients, Mélanie conclut que les colères de son maître étaient suscitées par les désagréments de sa rupture. Elle devinait d'ailleurs, avec son instinct de femme habituée à mener militairement son homme, qu'André n'était pas capable de mater une femme. Elle prit alors des airs soucieux et discrets, persuadé en fin de compte que c'était André qu'on avait lâché. Toutes ces simagrées, toutes ces singeries dont d'autres gens se seraient à peine occupés, désespérèrent André. Son épiderme, naturellement souffreteux d'esprit, s'était singulièrement sensibilisé depuis le malheur survenu dans son ménage. Peu à peu, cependant, une période d'apaisement s'annonça. Ce remède qui lui avait paru souverain pour couper la fièvre juponnière, la femme hebdomadaire, qui n'est pas une maîtresse et qui n'est déjà plus une passante, agit efficacement sur lui, mais par des autres que ceux qu'il avait prévus. La cure s'était accomplie, non par l'activité du remède lui-même, mais par la répugnance qu'avait causée son absorption. La lassitude des bêtises féminines avait guéri André de la femme. Il glissait à douce apathie, un besoin grandissant de le bouger, une sorte de béatitude flamande, assise, heureuse simplement d'avoir le ventre plein et les pieds au chaud. Plus de divagations, d'images regrettées de maîtresse, d'ennuis de travail et de solitude. Il était revenu à cet état d'âme qu'il possédait après qu'il se fut installé dans son nouveau logement. Il se retrouvait, une fois encore, parfaitement heureux.